Tout de suite, c'est sur les docks. Bonjour Irène Emelianenko.
Bonjour Hervé Gardette. Alors, il y a bien des années, enfin en mars 1999, Florent Latrive interviewait pour Libération deux hackers, Alexandre Golovanivski, 22 ans, et Johan Vandorslaer, 17 ans. Bien que confrontés à la justice, les deux jeunes gens tenaient à se démarquer, je cite, de leurs alter-ego bandits numériques carders, voleurs de numéros de cartes bancaires, ou crackers qui endommagent les données des ordinateurs visités. Ils n'étaient pas des voleurs, juste des visiteurs.
Et sur les docks propose d'entrer dans un lieu officiel de formation pour hackers.
Oui, Hervé, en 2016, il est question de former de jeunes hackers professionnels et éthiques. Il existe un institut universitaire de technologie et son diplôme, collaborateur pour la défense et l'anti-intrusion des systèmes informatiques. Les élèves peuvent ensuite devenir auditeurs en sécurité informatique, développeurs, spécialistes réseau. Mais le début des cours réside non pas dans l'art du pare-feu, mais dans celui de l'attaque.
École. Ici, on commence par leur apprendre à attaquer.
Local technique.
Alors déjà, c'est passionnant parce que on leur met des systèmes faillibles. Le but, c'est de trouver la faille, de passer à travers, d'aller chercher l'information. Donc, c'est un peu une forme de jeu. C'est du challenge en permanence. Hein. Mais c'est beaucoup dans ce milieu-là du challenge.
Il faut savoir que on démontre que faire du défensif, c'est-à-dire installer des antivirus, installer du matériel, des pare-feux, tout ce que vous voulez, qu'il y a des techniques qui existent pour contourner tout ça. Donc la seule vraie protection, c'est bien sûr il faut faire du défensif, mais il faut faire aussi de l'offensif.
Une fois qu'ils ont bien compris les mécanismes d'attaque, on va leur apprendre par exemple, moi je leur apprends à extraire des données d'un site web quand il a été mal développé. Donc le challenge c'est d'aller chercher la donnée qui a priori ne devait pas être à leur disposition. Donc quand ils y arrivent, ils sont forcément très contents parce que ça demande de la technicité, il faut quand même, en fait, faut vraiment être un acharné. Une fois qu'ils ont réussi, eh bien on est plus à même d'appréhender la façon et le mécanisme qu'on va mettre en place pour se défendre.
Et donc, quand on attaque comme ça les systèmes, on se met à la place du pirate, on trouve les failles que le pirate aurait trouvées. Et c'est incroyable qu'en France, parce que ça devient moins vrai aux États-Unis, c'est incroyable qu'en France, on mette en production des systèmes qui n'ont pas été testés avec de l'offensif. Comme si on mettait une voiture sur la route sans avoir fait des crash tests avant. Il faut faire des crash tests sur les serveurs avant de les mettre en production.
À l'école des hackers, un documentaire de Catherine Escrive et Asia Ralid. Le très discret IUT, département informatique à Maubeuge, propose une formation unique en son genre en France. Il s'agit de la licence CDSI, Cyberdéfense et Anti-intrusion des systèmes d'information. Chaque année, une cinquantaine de jeunes informaticiens triés sur le volet viennent s'y perfectionner. Pendant 10 mois, ils sont initiés au monde du hacking éthique, enseigné sous une forme très particulière, la forme offensive. Ici, les étudiants apprennent leur futur métier, traqueurs de pièges informatiques et de failles numériques secrètes.
Pour l'instant, et on est encore la seule licence en Europe,
Franck Ebel, directeur de la licence CDSI.
J'aurais pensé qu'après avoir ouvert la licence, quelques années après, il y en aurait eu d'autres, mais non. Alors la difficulté, c'est de trouver les intervenants.
Alors vous êtes le responsable de cette formation ici. Vous l'avez créée avec Jérôme Encar et Robert Croquefer. Y a un idéal pour vous derrière ce que vous avez créé là? Est-ce que vous continuez à mener?
Oui, alors moi je suis dans le hacking, pas dans le piratage, depuis maintenant plus de 25 ans. Et donc je me suis aperçu que s'il n'y avait pas de formation, les gens se formaient d'eux-mêmes, qu'ils pouvaient soit faire des bonnes choses, soit passer du mauvais côté et devenir pirate. Donc moi le but de la formation quand je l'ai créée, c'est de mettre un cadre dans l'apprentissage du hacking et donc de donner les notions de droit, de contrat et ainsi de suite et essayer de leur faire comprendre qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant un métier de la sécurité informatique. Bien sûr, peut-être des fois on gagnait moins que les pirates, mais les pirates se retrouvaient la plupart du temps en prison à un certain moment de leur vie et donc il valait mieux gagner sa vie honnêtement en faisant du hacking.
Oui, parce que c'est finalement presque contradictoire avec l'idée du hacking de créer une structure très, très encadrée, non?
Ça a été très compliqué, parce que les gens qui font de la sécurité vivent la nuit, souvent. D'ailleurs, moi, si je pouvais faire les cours la nuit, on le ferait la nuit. Il serait d'ailleurs, je pense, plus attentif. Mais les gens que j'accueille en licence sont vraiment des passionnés. Hein. Il faut savoir qu'on est passé de 40 demandes la première année jusqu'à plus de 500 l'année dernière pour 2 fois 26 places. Donc les gens qui arrivent sont vraiment des passionnés.
Est-ce qu'ici, la marque de fabrique, vous saviez que c'était vraiment apprendre à faire du hacking éthique offensif?
C'est le slogan de la licence, apprendre l'attaque pour mieux se défendre. Parce que quand on connaît l'attaque, on peut reproduire le schéma de ce qu'on veut faire à un hacker et savoir par quel biais ils vont rentrer. Donc du coup, pouvoir sécuriser ces aspects-là.
On peut dire que le but, en fait, c'est de se mettre dans la peau, dans les yeux, dans les mains de la personne qui veut attaquer pour savoir ce qu'elle va faire, pour nous mettre les contre-mesures nécessaires pour l'empêcher de le faire.
Il faut qu'on trouve des jeunes qui s'accrochent, parce que s'il y a bien un domaine qui est décourageant, c'est la sécurité au début quand on commence, parce qu'on trouve rien.
Jérôme Encart, enseignant.
On n'y arrive pas.
On est chercheur d'or.
C'est ça, voilà. Exactement. Et en plus, ça va demander de rassembler une masse de connaissances qui est assez lourde. Et au début, bah, ça patauge. Hein. On voit l'autre qui arrive à escalader des droits sur une application, etc. Puis nous, ça marche pas. Puis on cherche, puis il faut creuser.
En gros, ce qu'on leur demande, c'est d'acquérir, au-delà même de la technicité, une sensibilité en sécurité informatique, c'est-à-dire...
Robert Croquefer, enseignant.
D'être capable de déceler un comportement anormal, même si, de prime abord, on n'est pas capable de dire ce qui se passe. Mais de dire, c'est pas logique que ça se passe comme ça. D'avoir un signal d'alarme qui s'allume dans la tête en regardant ou une application, ou le réseau, ou autre chose en termes de sécurité. C'est en gros, oui, c'est de l'intuition. C'est, on va leur demander quasi un sens supplémentaire, on va dire, en termes de sécurité. Chercher la petite bête, c'est ce qu'on demande à nos jeunes, c'est d'aller chercher. Et de sortir des formatages dans lesquels on les a mis en termes d'esprit, en termes de standards, par exemple, de fonctionnement des protocoles, on leur demande d'en sortir. Des informaticiens classiques vont vous dire, mais vous sortez des standards, ça peut pas marcher comme ça. Mais vous avez déjà essayé ce que ça fait si on essaye de le faire marcher comme ça. C'est toujours être quelque part critique sur ce qu'on vous annonce. Dire, oui, mais on me dit ça, mais est-ce que je vais pas tout prendre pour argent comptant? Moi, je vais regarder un petit peu si c'est vrai. Au moins, vérifier un peu.
Il y a pratiquement de l'artistique par moment. Il y a des hackers, ce sont des vrais artistes, parce que pour avoir eu la finesse de sentir qu'il allait se passer quelque chose, en gros, les systèmes sont devenus tellement complexes qu'il est impossible de savoir tous les comportements qu'ils vont avoir. Et il y a des gens qui sont doués pour voir que, voilà, si on fait comme ça, il va se passer quelque chose. Il y a de l'instinct, effectivement, il y a de l'instinct.
Alors c'est quoi votre définition du hacker? Un hacker c'est quoi du coup, si c'est pas un pirate?
Un hacker c'est quelqu'un qui prend un système qui détourne le système de son utilisation normale. Si on s'en sert à mauvaise escient, on devient pirate.
Vous êtes de gentils pirates ou pas du tout des pirates?
Pas du tout des pirates. On a le potentiel pour le devenir, mais on a l'éthique qui fait que on va pas le faire. Alors, c'est pas dit qu'un jour un étudiant ne passera pas de l'autre côté, mais comme n'importe qui, comme un gendarme ou un policier peut devenir un jour braqueur de banque. Mais pour l'instant, on n'a personne à notre connaissance qui soit passé du mauvais côté.
Just a regular cybersecurity engineer, but I'm a vigilante hacker by night.
Pourquoi c'est nécessaire pour vous, en plus de vos activités d'avocat, d'enseigner dans une école de hacking éthique?
Alors ça me permet d'appliquer en fait les principes juridiques à des situations
Raphaël Rowe.
Parfois un peu borderline, qui peuvent nous être soumises par les étudiants, et en plus des étudiants qui sont là pour faire une bonne utilisation des moyens aussi informatiques qui sont à leur portée. Ils ont des vraies compétences, ils se posent des vraies questions. Ils n'ont pas tous eu une formation juridique à la base. Alors il y en a qui ont de très bons réflexes, mais il y en a qui se posent franchement des questions. Par exemple, un étudiant qui me pose la question, je pense que c'était dans un de mes premiers cours, un étudiant qui me dit « Bon, j'ai compris l'algorithme de ce site de e-commerce, j'arrive à changer le prix du jean que je suis en train d'acheter, est-ce que je peux le faire? Et est-ce que je peux en acheter 10 à 1 euro ?» Voilà, genre de questions auxquelles vous devez trouver une réponse. Et c'est grisant, si vous voulez, quand on a, je sais pas, une vingtaine d'années, qu'on est étudiant en sécurité informatique, ça peut être grisant de se dire, bon voilà, je peux faire plein de choses, qu'est-ce qui m'en empêche? Et donc ma réponse est toujours effectivement de leur expliquer le fondement juridique, parce qu'il n'y a pas de vide juridique dans la matière. Les réponses, on les trouve soit dans les textes, soit dans la jurisprudence, soit on essaye d'être créatif. Essayer d'être créatif, c'est faire une interprétation de l'existant, ensemble, et c'est là aussi que l'intérêt du cours, c'est de réfléchir ensemble, à partir de leurs questions, à des réponses un peu innovantes.
Sur cette question de la modification d'un prix sur un site web, Est-ce que vous vous sentez capable de transgresser justement ?
En fait, on a beaucoup d'éthique quand on arrive ici. On nous dit en début d'année, on nous dit, ouais, surtout, nous, c'est l'éthique. À la base, le nom de la licence, c'est Ethical Hacking. Hacking éthique, en fait. Et donc, personnellement, ça ne me viendrait pas à l'idée de... Je pense que faire un business sur une probable erreur, c'est... Non, c'est...
Je pense dans ce cas, si j'ai cette capacité-là, je pense que le mieux à faire, ça sera d'informer la société, qu'il y a une faille de sécurité à eux de corriger après.
Après, soit on décide de dire on va mettre une protection, soit on décide de revendre cette information à des fins effectivement malveillantes. Et oui, les étudiants peuvent être approchés par des gens qui pourraient les payer pour connaître des méfaits. Mais on leur martèle à longueur d'année avec, on a un avocat qui intervient, on a un commandant de l'armée de terre qui intervient en social engineering, on est en relation avec les gendarmeries, on est nous-mêmes commandant de réserve en groupe cyberdéfense. Ils savent tout ça. Ils savent qu'il y a un réseau. Ils savent que leurs noms sont connus au sein de ce réseau. Donc, je pense qu'on capte des gens qui peut-être seraient partis du mauvais côté parce que ce qu'on leur apprend, ils l'auraient appris. Et on leur montre que peut-être on peut s'amuser en défendant son pays, en étant honnête. Alors peut-être qu'on gagnera moins d'argent, encore qu'ils ont des salaires bien élevés à la sortie de la licence, à peu près 20 à 30% au-dessus de ce qui se fait avec plus 3 actuellement. Mais on ne peut pas garantir, ça c'est certain.
Quand ils sortent de chez nous, je pense qu'ils sont bien au fait des conséquences de tout ce qu'ils sont capables de faire. Nous, on s'en rend compte tous les jours de ça.
À quoi vous le sentez, par exemple ?
On voit des jeunes qui nous remontent des failles, ils ont les outils pour aller plus loin, parce qu'on leur dit que s'ils trouvent une faille, ils s'arrêtent et ils ne pénètrent pas un système, c'est illégal. C'est illégal même si c'est pour ne rien y faire, s'ils ont détecté une faille, ils ne rentrent pas, ils nous préviennent.
On a un exemple concret, un étudiant s'est rendu compte que sur les B-box, quand on mettait une clé USB, donc la clé est partagée au sein du réseau,
la B-box, c'était
c'est la box de Bouygues. D'accord. Comme toutes les box, on peut maintenant avoir des ports USB, mettre sa clé USB dessus pour partager différents fichiers sur son réseau local, normalement, donc dans la maison. Et l'étudiant s'est rendu compte qu'en fait, quand on mettait sa clé, ça le partageait sur l'Internet. Donc les fichiers de la clé qu'on avait mis dans la B-box étaient accessibles de tous. Eh bien, il a déclenché un protocole d'alerte Zataz, ils se sont mis d'accord avec Bouygues et ils ont corrigé la faille. Donc l'étudiant, on aurait pu l'exploiter en se disant « je sais que maintenant, n'importe qui met une clé sur une B-box, je vais pouvoir aller chercher ces informations. » Mais il ne l'a pas fait, il a prévenu. Et donc on a des réflexes citoyens et on en a de plus en plus. Damien Bancal explique très bien ça parce que lui en fait il a mis un système d'alerte et donc il a beaucoup d'alertes sur des très très bons hackers qui sont pas forcément scolarisés. Et il dit il y a rien de pire que un jeune hacker de 16 ans qui va trouver une faille de sécurité sur sur un gros groupe qui va les alerter. Il dit il y a rien de pire que la non-réponse ou qu'on se moque du jeune en fait. Il dit là lui en fait il va passer à la vitesse supérieure en disant il se fout de moi, ok. Et c'est, ça conduit à des catastrophes parce que, un, le groupe, il va se prendre une attaque qui va avoir des conséquences financières souvent lourdes pour lui. Et le jeune, il se met complètement en défaut avec la loi. Il peut avoir de graves ennuis. Donc, Damien nous dit toujours, il explique bien ça. Il passe par lui et il fait tout pour qu'il y ait un moment, l'entreprise, qu'il y ait une reconnaissance envers le jeune. Mais ne serait-ce qu'une reconnaissance de dire, oui, un tel nous a aidés. Rien que ça. Pas de l'argent, pas... Bon, après, il y a des entreprises qui donnent une somme d'argent, qui... Mais d'ignorer le hacker qui a voulu aider, c'est la pire des choses qu'on puisse faire.
Notre vocation première dans White Hat, c'est pas de trouver une faille pour la rémunération, comparément au Black Hat, qui lui va revendre l'information pour avoir l'argent. En général, maintenant, les sociétés comme Facebook, que je vais citer, parce qu'il y a quelques jours encore, elle a fait ça, ils obtiennent en fait un bounty qui permet en fait une rémunération. En fait, sa société qui va donner ça en remerciement. En fait, le hacker va pas la quémander, il va donner l'information. Et Facebook a donné 150 000 dollars dernièrement pour la faille de permettre de réinitialiser les mots de passe. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Donc en fait, ils l'ont dit en remerciement, on t'offre cette somme-là. Il l'a pas réclamé, c'est la société qui l'a généré. Donné.
En fait, il y a sur Facebook une double authentification qui permet d'utiliser son téléphone portable comme second moyen. Et du coup, on pouvait réinitialiser son mot de passe avec un code qu'on recevait sur son téléphone. Alors, sur le site Facebook officiel, on est limité à 3 essais, après quoi c'est bloqué. Par contre, il y avait le site beta.facebook qui, là, ne mettait pas de blocage. Et du coup, on pouvait essayer toutes les possibilités et à ce moment-là, réinitialiser le mot de passe de n'importe quel compte.
Avant, on ne révélait pas les failles. Quand il y avait une faille sur un système, il fallait surtout pas le dire. Il fallait que ça reste un secret. On grugeait énormément les gens. On leur disait, installez un antivirus, on s'occupe de tout, rassurez-vous. Et c'est vrai que là, ça a beaucoup évolué. Maintenant, On parle même de lois qui vont contraindre les entreprises à révéler les attaques. Les entreprises sont maintenant tenues, lorsqu'elles subissent une attaque qui impacte des clients, à prévenir les clients, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc généralement, quand il y avait une défaillance informatique, on disait « c'est pas un problème, on a eu un petit souci informatique, on ne parlait pas d'attaque ».
C'était secret parce qu'il y avait des enjeux économiques, c'est ça ?
Oui, des enjeux surtout d'image.
Tout à fait, et de réputation également. La réputation de l'entreprise en termes de sûreté au niveau des données ou ce genre de choses.
Mais finalement, est-ce qu'être un hacker, c'est pas être quelqu'un qui cherche sans arrêt à dévoiler des secrets ?
Oui, c'est un chercheur de secrets, tout à fait. Il cherche un secret et l'idée, c'est que lui le trouve et en informe des personnes qui vont pouvoir agir pour le corriger avant que d'autres puissent s'en emparer à des fins beaucoup plus malveillantes.
En parlant du hacking, vous devez savoir qu'il y a deux sortes de hackers. Donc le white hat et puis le black hat. Le white hat, c'est celui qui travaille pour la sensibilisation, voilà, qui trouve une faille sur quelque chose et qui informe. Et par la suite, à la plateforme de corriger. Et le black hat, c'est celui qui travaille pour de l'argent, quoi, voilà.
Pourquoi vous avez choisi de travailler, vous, pour sensibiliser et pas pour de l'argent? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous pourrez basculer aussi?
Bah, c'est vrai que la tentation, elle est grande parce que ceux qui travaillent pour le black gagnent assez d'argent. La refonte de données, c'est quelque chose qui coûte très cher. Bah, je pense que dans la vie, il faut avoir une conviction et faire un choix. Et je pense que je suis dans le bon côté. Et j'y demeurerai.
Comme si vous passiez à côté d'une banque et vous décidiez de pas la braquer, en fait. En fait, c'est un peu pareil. Les gens pensent que l'informatique, c'est transcendant, mais en fait, pas tant que ça. Quand on est à l'intérieur, on se rend compte qu'en fait, c'est juste comme ça, que les gens nous prennent pour des dieux parce qu'on met trois lignes de code et qu'on peut faire plein de trucs. Mais en fait, il suffit de s'intéresser deux secondes et on se rend compte qu'en fait, c'est super facile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, pour la plupart, qui sont mal intentionnés et pas vraiment compétents, qui peuvent réussir à faire beaucoup de choses et...
I don't understand.
Are you blackmailing me?
So that's what this is about. Money. That's all you care about. No. You will inform the police anyway.
Actually, you're right. Partly.
Wait, hold on. I'll give you the money. I'll pay you. How much do you want? I'll pay you.
That's the part you were wrong about, Rohit. I don't give a shit about money.
Appartenir à une communauté, est-ce que ça compte pour un hacker dans la pratique? Est-ce que c'est un soutien à la communauté pour vous?
Oui, ça va être un soutien parce qu'on ne peut pas, nous, développer forcément tous les outils dont on peut avoir besoin. Donc la communauté va nous permettre d'avoir plusieurs outils à disposition. On va effectivement donner aussi nos outils à la communauté pour y participer. Mais la communauté est un tremplin finalement dans les outils qu'on va pouvoir avoir à notre disposition.
Vous, Thomas, quand vous êtes dans cette communauté, vous apparaissez sous le nom de Thomas ou vous avez un pseudo de hacker?
Alors, j'ai pas réellement de pseudo de hacker pour le moment, mais ça va venir dans les publications que je pourrais faire dans le futur.
Et on est reconnu en tant que hacker par ce qu'on publie, c'est ça?
Oui, ça va souvent être par les logiciels qu'on publie ou par les exploits qu'on peut publier ou par les failles qu'on peut expliquer, ce genre de choses. On va avoir souvent un pseudo qui va nous être associé et une réputation derrière ce pseudo. Après, certains hackers ont plusieurs pseudonymes aussi et ça peut arriver.
Mais vous avez une réputation déjà ?
Non, pas pour le moment.
Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'effectivement, il y a un langage très précis. Quand on va s'adresser à des réseaux, ces réseaux ne s'ouvrent pas comme ça. C'est-à-dire, si vous, demain, vous voulez devenir hacker, on ne va pas vous donner des clés comme ça. Il va falloir que vous fassiez vos preuves, que vous montriez que vous soyez tenace, que vous challengez sur des plateformes en ligne, que vous montriez que vous êtes bien classé. Et vous allez pouvoir discuter avec d'autres personnes qui ne vous auraient pas adressé la parole si vous n'aviez pas montré votre niveau de compétence. En gros, il y a des gens avec qui maintenant on discute, mais on a mis 10 ans pour acquérir la confiance, pour montrer que ce qu'on faisait c'était intéressant. Au début, on était avec effectivement The Academy School, avec The Hacker Voice. Il y avait toute une communauté, on était au départ vus comme des rigolos en fait. Des gens de 45 ans, 50 ans qui se mettent à faire du hacking au milieu des jeunes de 20 ans, il y avait comme un problème. Et puis, on a acquis cette confiance. Et maintenant, quand on va par exemple à l'événement parisien qui est la Nuit du Hack, qui est un gros événement français sur le hacking, ben, on serre des mains tous les 5 mètres. Et là, on tombe effectivement dans une forme de communauté, donc de secret. Vous ne discuterez pas de tout avec n'importe qui.
Mais vous allez dire, vous employez d'autres mots, qu'est-ce que ça c'est concrètement?
où il y a des petits langages connus, comme par exemple utiliser les chiffres. Je ne sais pas si vous avez vu le portable de M. Ebel, c'est écrit 31-38, parce qu'en fait, si vous regardez, le 3, ça fait E, le 8, c'est un B, le 1, c'est un L. Donc, ce sont des langages comme ça.
C'est le
langage lit. Donc, si vous regardez la pub sur la Freebox, la pub, elle écrit l'heure de la Freebox à 13h37. 13h37, qui veut dire en langage lit, L-E-E-T, en fait, lit. Ça veut dire lit, donc, en gros, geek, en langage lit. Et donc, le 13-37, il n'est pas choisi pour rien. C'est pour dire, moi, je suis un opérateur qui veut vous permettre de faire des choses sur le réseau que peut-être d'autres opérateurs vont vous bloquer. Ce sont des codes de groupes, de tribus. C'est une tribu, en fait. Comme toute tribu, elle a ses codes. Et si vous voulez rentrer dans la tribu, il faut que vous épousiez les codes.
Un des responsables m'a raconté qu'on regardait un petit peu votre parcours avant d'arriver ici, sur le web. Est-ce que vous avez ce sentiment d'avoir été surveillé en tant que pratiquant du web et de l'être encore aujourd'hui ?
Alors, on nous a dit effectivement qu'il y avait eu des enquêtes de fait sur nous pour pouvoir entrer dans la licence, mais on n'a pas vraiment ressenti cette enquête. On n'a pas le ressenti d'être surveillé non plus. Mais c'est effectivement le cas.
Surveiller, je dirais qu'à partir du moment où ils vont faire quelque chose, on n'espionne pas tout ce qu'ils vont faire.
Lieutenant-colonel Pascal Le Plongeon, gendarmerie du Nord-Pas-de-Calais.
Même si on a des techniques maintenant pour essayer de suivre beaucoup de choses, il y a quand même un encadrement qui est fait, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On les met devant les responsabilités en leur disant, voilà, vous apprenez des choses, vous avez des possibilités, mais à un moment donné, on arrivera toujours plus ou moins à remonter. Si à un moment donné, on sent, et même les professeurs qui sont ici, ou si on sent que c'est quelqu'un qui commence à avoir un comportement qui n'est plus tout à fait ce qu'il avait au début, on va peut-être s'intéresser un petit peu plus à lui pour voir si effectivement il n'est pas en train de partir dans une voie qui n'est pas forcément celle qui était prévue au départ.
Ça va, on peut reprendre ? Donc on avait vu ce matin ensemble les grands principes du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel qui sera adopté à l'été 2016. Je vous avais dit qu'on allait faire un petit focus sur la loi relative au renseignement et d'en voir les impacts principaux. On a donc une intervention des services de renseignement qui peut intervenir dans le cadre de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la défense nationale. On a également les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France. On va avoir également, et ça, on va rebondir dessus avec les impacts liés justement à l'état d'urgence actuel, mais la prévention du terrorisme. Alors la prévention, ça pose aussi toujours question. Jusqu'où on va aller dans le profiling des internautes, et donc jusqu'où on va aller dans le prédictif de leur prochaine action. D'accord ? Est-ce que c'est parce que vous allez sur un site d'apologie au terrorisme que vous allez devenir terroriste ? Pas dans tous les cas. Mais effectivement, vous commencez à créer un espèce de faisceau d'indices.
Avant d'arriver ici, on bidouillait un peu dans notre coin, en fait. Je sais pas vous, mais... en droit, en fait, on n'était pas... Enfin, personnellement, j'étais pas vraiment calé.
Disons qu'à notre arrivée ici, la cyberdéfense, disons le hacking, c'est quelque chose qui nous fait rêver depuis notre jeune âge. Déjà pour ceux qui ont choisi l'informatique après le baccalauréat. Et dire qu'on ne savait pas tous ces aspects juridiques après. Et le cours de droit nous a été vraiment d'une extrême importance pour pouvoir savoir la limite à laquelle on peut aller, quoi.
Vous n'êtes pas du tout dans le mythe du hacker qu'on peut avoir de l'extérieur, du hacker un peu héros, un peu trouble, un peu...
C'est vraiment l'éthique qu'on nous apprend, quoi. Voilà.
Oui. Puis au final, le hacker, c'est quoi ? C'est un bidouilleur qui... En fait, il essaye des trucs, et puis ça a marché, et puis on se rend compte que c'est des failles, etc. J'ai tendance à faire une analogie entre les programmeurs et les maçons. Et je pense que les hackers, c'est juste des gens qui voient des fenêtres ouvertes et qui rentrent et qui disent « Coucou, je suis là ». Et puis les gens, ça leur fait peur parce qu'ils disent « Mais par où il est rentré ?» Et puis en fait, il y avait une fenêtre grande ouverte.
Mais vous, ça fait longtemps que vous vous intéressez à l'informatique. Vous êtes né avec les ordinateurs. Vous connaissez des gens de votre âge qui ont fait le choix
Bah, de rentrer par la fenêtre et puis de tout cambrioler dans la maison aussi, non?
Non, pas vraiment, non. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui se la jouent, entre guillemets, qui disent « oui, j'ai fait ça, mais à quoi ça sert ?» Mais non, en vrai, non, non, pas ici, quoi. Non.
Donc, je pense qu'ils ont, en fait, finalement, une maturité, peut-être à 20 ans, qui est plus grande que celle que j'avais, moi, à 20 ans, sur les impacts de l'informatique. Alors, j'avoue faire toujours une demi-crise cardiaque à chaque fois que je vois leur projet de fin d'année.
C'est quel type de projet, par exemple?
On a pu avoir des choses assez fleuries, comme des étudiants qui avaient montré qu'on pouvait faire du social engineering vis-à-vis de leurs propres camarades de classe. Social engineering, ça consiste effectivement à collecter un maximum d'informations autour de soit d'une entreprise, soit d'une personne. En l'occurrence, c'était une personne. Et ils l'ont fait par rapport à l'un de leurs camarades qui n'était pas informé, bien entendu. Et ça, je vous avoue que ça fait partie. Bon, à la limite, ça reste à l'intérieur. C'est pas trop gênant. Mais dès que ça va avoir un impact sur une entreprise ou une administration, j'avoue que moi, j'ai toujours un petit stress.
Quand on se rend compte qu'il y a des failles, qu'il y a sur les sites internet, etc., on se rend compte qu'il y a beaucoup de données personnelles.
Les gens n'ont pas tellement conscience de ce qu'ils mettent sur internet, de ce que les gens peuvent faire de leurs données. Et je pense que la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est de vraiment sensibiliser les gens à la sécurité et qu'ils fassent vraiment le choix sur ce qu'ils doivent mettre sur internet.
Est-ce que vous suivez leurs travaux? Si oui, est-ce que vous avez un exemple de suivi?
Alors dans le suivi, vous avez en fait souvent des étudiants qui vont m'envoyer des mails avec des situations que eux constatent ou vivent directement, soit dans le cadre de leur stage, soit dans le cadre de leur contrat, parce qu'en fait souvent ils sont au cœur du réacteur dans les boîtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises tournent grâce à leur système informatique. Et eux parfois se retrouvent d'une part au cœur du réacteur et d'autre part se retrouvent parfois instrumentalisés par l'employeur. Parce que comme ils ont les clés de tout le système, on appelle ça super administrateur, ils ont les clés de tout le système, ils vont être, non pas tentés, mais ils vont être instrumentalisés. Et on va se servir d'eux comme bras armés. Et c'est là à moi de leur dire, attention, vous devez aussi sensibiliser, éduquer et faire de la pédagogie avec vos supérieurs hiérarchiques. Ça, c'est pas évident, mais très sincèrement, un employeur qui souhaite avoir une vidéo surveillance derrière laquelle il est tous les jours, pointée sur un salarié, moi j'ai tendance à penser que eux vont être alertés là-dessus maintenant. Et vont peut-être agiter un petit chiffon qui a peut-être freiné un petit peu les ardeurs de l'employeur. Quoi.
Mais ce que vous dites, ça m'évoque le cas des traders qui ont pu aller très loin, des jeunes traders qu'on a laissé faire dans certains environnements bancaires et qu'on a ensuite accusé de malhonnêteté. Ça peut être comparé.
Alors, avec la réserve, effectivement, qui est que de leur statut de salarié, bien sûr, mais c'est vrai que la comparaison est excellente parce que tant qu'on n'a pas en fait, d'alerte, on va continuer. Là, moi, ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, sans avoir vraiment, sans faire d'eux des juristes en soi, à un moment donné, il va y avoir un élément qui va les choquer. Ou alors un élément où ils vont se poser la question. On met une caméra, mais est-ce qu'on a fait notre déclaration CNIL? C'est basique, mais est-ce qu'on a informé les salariés? Est-ce que ça s'est bien fait? C'est pas sur eux que vont reposer les responsabilités, mais eux vont peut-être pouvoir alerter. Et du coup, éviter peut-être d'être mis dans un cercle vicieux qui pourrait être celui, effectivement, des traders, qu'on a laissé faire comme ça, en le sachant ou pas, hein, d'ailleurs, sans leur laisser véritablement de limites, et eux-mêmes n'avaient pas de limites, en fait. Je pense que c'est ces limites-là qu'on essaie de leur inculquer.
What I'm about to tell you is top secret. A conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. And now I think they're following me.
Bon, les jeunes, pour ceux qui n'ont pas de stage, vous passez dans mon bureau, on va faire le point avec Monsieur Hebel pour voir déjà si vous avez des pistes sérieuses et si c'est bien enclenché. Et sinon, pour voir un peu ce qu'on va pouvoir faire. Voilà. Allez, vous passez le message à tout le monde ?
Ouais. Merci.
On a vu, donc jusque-là... Ah, j'ai un petit souci de résolution. Jusque-là, on a vu principalement de la technique avec le web. On a commencé à avoir de la méthodologie de pentest, et on va aborder maintenant la méthode EBIOS, et on va parler assez longuement de cette méthode, et vous allez essayer de la mettre en œuvre lors d'un exercice de simulation, on va dire. Hein. D'abord, les significations des BIOS. Expression des besoins. Donc la première phase des BIOS, c'est d'exprimer le besoin que l'on a en termes de sécurité. Et après, par rapport à ça, on va se fixer des objectifs de sécurité. Principalement, la méthode que permet-elle, elle permet de faire une évaluation du risque. Et le premier élément que l'on va essayer de découvrir, c'est l'établissement du contexte. Quelles sont les fonctions du système que j'étudie? Par exemple, établir une facture, passer une commande, délivrer un produit, ce sont des fonctions principales de mon entreprise. Une fois qu'on a ce contexte, il faudra faire une appréciation des risques.
Quand on entend ce que vous enseignez là aux étudiants, on se rend compte que vous n'évoquez pas simplement l'utilisation des outils technologiques, mais que vous évoquez également des problématiques humaines.
Oui, complètement. L'informatique n'est qu'un outil. Et l'homme utilise cet outil, donc il faut aussi tenir compte dans le risque sur l'information du comportement humain. C'est quelque chose de fondamental. Dans toute analyse de risque, il y aura la partie technique et il y aura la partie humaine. Et EBIOS permet de cadrer l'ensemble de ces éléments. En fait, on apprend aux étudiants qu'il faut communiquer. Les failles de sécurité viennent très souvent d'un manque de communication entre les personnels d'une même entité.
Pour traiter le risque, vous n'avez pas 36 solutions, vous en avez 3 principales. Réduction, transfert et annulation du risque. Annulation du risque, j'ai du Wi-Fi dans mon entreprise, j'ai peur qu'on puisse s'introduire sur mon réseau par le Wi-Fi, je décide qu'il n'y aura plus de Wi-Fi dans l'entreprise. Donc le risque que j'avais évalué, j'avais fait un scénario d'attaque, on arrive à s'introduire sur le réseau Wi-Fi, ce scénario il tombe à l'eau, parce qu'il n'y a plus de Wi-Fi, donc il n'y a plus de vulnérabilité. On va donc passer à un cas d'étude que je vais vous présenter. L'objectif, c'est de faire une analyse de risque. Je vous montre le document. Je viens de le mettre en téléchargement. Donc, si vous rafraîchissez, vous avez un nouveau document qui apparaît. C'est l'étude de cas de la mairie Z. 5000 habitants. Donc, on va s'amuser à un jeu de rôle. Donc, je vais prendre la casquette du maire, la casquette de la secrétaire comptable, la casquette de l'informaticien. Donc, je vous dis, voilà, je suis le maire, et vous me posez à tour de rôle des questions. Ça va? Je vous laisse 10 minutes, et après, on commence.
Dans les collectivités, il y a beaucoup d'informations à récupérer et qui se vendent très bien sur le dark web.
Franck et Belle.
Par exemple, une feuille de quelques noms, prénoms avec quelque chose, par exemple une adresse ou un numéro de téléphone se revend dans les 60 euros la page. Si vous ajoutez un numéro de carte bancaire ou un numéro de sécurité sociale ou des mots de passe, ça passe tout de suite à des 120 euros la page, donc une soixantaine de lignes. Nous, on a eu, par exemple, dans le Nord, il y a quelques années, des effractions dans les mairies où ils ne volaient que les disques durs des machines. Et c'était pour récupérer les données, pour les revendre. Déjà, c'est revendre sur le dark web pour d'autres qui vont fabriquer des faux papiers, qui vont fabriquer des faux permis de conduire, fabriquer des fausses plaques, des matriculations, et ainsi de suite. On a fait pas mal d'études dans les mairies et on s'aperçoit que souvent, la personne qui est responsable informatique, c'est... quelqu'un qui travaillait dans la mairie et qui était comme ça parce qu'il faisait un peu de choses sur l'ordinateur, qui a été déclaré responsable de l'informatique. Et donc, il n'a pas à la base déjà les connaissances vraiment d'informatique, encore moins de sécurité de cyberdéfense.
Donc je me présente maire de la mairie Z. Donc je vous écoute.
Donc, bonjour monsieur le maire.
Qu'est-ce que sont vos attentes pour notre mission?
Je sais pas, moi c'est l'informaticien qui m'a dit ce serait bien qu'on demande ce truc-là. J'ai vu une émission là-dessus. De plus en plus, il y a des risques. Alors il m'a dit il faudrait qu'on fasse ça. Bon, je dis ok.
ça va coûter combien ? Il me dit, je sais pas trop. Donc, voilà, j'en suis là, je sais pas. Il faudrait peut-être voir avec mon informaticien.
Comment s'appelle ?
Luc Ferry.
Il y a une responsabilité de l'élu parce que c'est lui, on va dire, le chef, et c'est lui qui est responsable des données. Et donc, si son système d'information n'est pas sécurisé, qu'il y a une fuite de données, c'est l'élu qui est responsable. Avec le vol de données qui se fait maintenant et tout ce qui est ransomware, qui maintenant est en train de s'attaquer aux mairies.
C'est du rançonnage, c'est ça,
ransomware ? Alors, ransomware, en fait, c'est quelqu'un qui arrive à pénétrer dans le système d'information. Donc, on va prendre de la mairie, qui trouve des données sensibles, va chiffrer le disque dur. Quand on chiffre, on a une clé qui permet de déchiffrer. Donc, il récupère cette clé qui ne se trouve plus donc dans le système d'information de la mairie et demande une rançon pour redonner la clé pour déchiffrer derrière. Il y a un ransomware qui s'appelle Loki qui vient d'être déployé. Et dans une mairie du Nord, par exemple, sur les 150 PC, il y en a 130 qui sont infectés, qui sont chiffrés. Ils demandent 100$ pour déchiffrer un PC. Et donc, si on donne pas l'argent, ils nous rendent pas la clé. Et sans la clé, pour l'instant, c'est impossible de déchiffrer. Donc, on a perdu toutes les données qui étaient sur le disque dur, sauf si on a fait de la sauvegarde. Et franchement, c'est très rare qu'il y ait une bonne sauvegarde dans les mairies, par exemple.
Et dans ce cas-là, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que même si vous avez été prévenu de ce délit, finalement, vous n'avez pu rien faire.
On ne peut rien faire. Sauf faire un audit de la mairie pour trouver quel moyen le pirate a réussi à mettre en œuvre pour s'introduire, donc combler cette faille pour qu'il ne puisse plus s'introduire. Et donc, même si la rançon est payée, ce que préconise le FBI d'ailleurs, il préconise de payer les rançons, tandis qu'en France, on préconise l'inverse. Mais bon, si même la rançon est payée et que les données sont déchiffrées, donc que l'entreprise récupère ces données, le pirate revend les données sur le dark web derrière. Donc, d'une manière ou d'une autre, il se fait de l'argent sur les données.
Vous, Robert Roquefer, qu'est-ce que c'est votre spécialité dans l'enseignement ici ?
Alors moi, je m'occupe essentiellement de tout ce qui est ce qu'on appelle prise d'empreinte ou collecte d'informations et de tout ce que nous, ici, on a appelé faille physique, c'est-à-dire j'ai accès à votre machine, que puis-je faire ? En fait, quasi tout ce qu'on veut. Et alors la prise d'empreinte, pour expliquer un petit peu ce que c'est en gros 95% d'une attaque, c'est-à-dire c'est le profilage matériel et humain. Donc on va dire de la cible, donc on peut partir d'un domaine pour aller rechercher toutes les informations sur ce domaine, sur les entreprises, sur les gens qui composent l'entreprise, sur les annuaires, sur la topologie du réseau, les machines, les logiciels installés. C'est énorme, c'est un travail de longue haleine, mais qui permet de faire un profilage tellement fin que l'attaque pourra se dérouler de façon rapide et de manière la plus efficace possible, on va dire. Alors, bien entendu, tout ce qu'on dit là se fait toujours dans un cadre légal, dans un cadre de pen test, avec le périmètre défini en accord avec la personne ou l'entreprise qui demande ce service. Restons bien dans le domaine de l'éthique.
Pen test, la signification, c'est penetration test, c'est ça ?
Oui, en gros, c'est l'audit du système d'information. On va partir, par exemple, d'un nom de domaine, voir si sur ce nom de domaine, j'arrive à aller chercher les sous-traitants, le personnel, récupérer des annuaires, des numéros de téléphone, des mails, pour essayer d'aller chercher le maillon faible. L'humain étant, par définition, le maillon le plus faible de la chaîne en termes de sécurité informatique. Il y a des techniques de social engineering qui permettent d'aller chercher des renseignements chez l'humain. Donc, d'où l'intérêt de connaître précisément les gens, leurs fonctions, ce qu'ils font, et si leur position au sein de l'entreprise peut être intéressante pour un attaquant.
Je vous refais un petit point, de nouveau un petit arrêt. Vous ne demandez pas au maire de quoi a-t-il peur. Or, dans la méthode, on a vu les événements redoutés. Et la meilleure approche sur une personne qui ne connaît rien en informatique, c'est de quoi elle a peur et de lui suggérer des scénarios, des événements. Avez-vous peur que la dématérialisation fasse que votre fichier d'état civil puisse être pris par des hackers ? Avez-vous peur qu'au moment de la campagne électorale, quand il va falloir tout rentrer sur informatique, le système se bloque ? Que pensez-vous du vote électronique ? Il y a plein de choses.
Their networks are getting attacked.
$13 million. That's exactly how much they lost.
Who did this?
One guy.
A
whole thing comes down.
Oh, hi.
Elliot. Just attacked.
Je m'appelle Marco. Marco. Et je m'appelle Mercedes. On vient de Mexico, de la ville de León. On est en France, ça fait 6 mois. On fait ici la licence de cybersécurité. De mon côté, j'ai choisi cette formation parce que au Mexique, j'ai fait un diplôme côté développement de logiciels. Et je voulais complémenter les côtés développement avec les côtés sécurité. C'est pour ça que j'ai choisi cette formation.
Et même le gouvernement mexicain nous a envoyé pour étudier cette licence. En fait, nous sommes boursiers. Le gouvernement paye tout, logement, repas, tout est compris. C'est vrai qu'au Mexique, il y a très peu de monde dans le secteur de sécurité informatique. Donc je crois que c'est pour nous, ce sera bien de travailler sur l'État.
Pourquoi vous avez choisi d'aller en France, ici, à Maubeuge, et pas aux États-Unis, par exemple, ou dans une autre école? C'est pourquoi ce choix-là?
Bon, on avait lu que cette licence est la seule licence de ce type en Europe. Et en plus, le programme boursier, c'est le programme orienté en France pour les liens franco-mexicains.
Je m'appelle Mehdi et je viens d'Algérie. J'ai eu un BTS en Algérie, BTS en réseau et système informatique. Et puis à la suite de mes études, j'ai postulé à cette licence via Campus France. C'est l'organisme chargé des visas d'études pour continuer ses études ici en France. Donc j'ai été sélectionné à partir de plus de 400 dossiers ici en France. Et puis pour la poursuite d'études, je compte rentrer en Algérie pour travailler là-bas dans un organisme pétrolier ou bien une entreprise d'audit informatique.
Je dirais que la sélection est en fait assez variée. On a des âges différents, des provenances différentes, d'écoles différentes de toutes les régions de France. Donc il n'y a pas vraiment de profil type. Je pense que ce qui est le plus important, ça va être la motivation de la personne, plus que les compétences apportées.
Nous, on a vu beaucoup de choses en informatique, on s'est peut-être même spécialisé, ce qui fait, vous parlez de communauté, la force dans la classe, c'est qu'on est tous une petite communauté en soi, chacun est spécialisé dans quelque chose, et au final, c'est qu'on va se regrouper en groupe, qu'on va réussir à avoir quelque chose d'assez hétérogène et intéressant pour les projets.
Ah oui, vous êtes spécialiste en quoi, vous, par exemple?
Moi, je suis plus, par exemple, réseau et chiffrement.
Et vous?
Moi, plus CrackMe, programmation.
Et moi, ça va plus être du web ou de l'analyse mémoire et de l'analyse de disque dur.
Plus réseau.
Développement.
D'accord, développement. Et vous, si vous êtes ici, c'est que vous voyez dans quel type d'activité, je sais pas, dans 5 ans?
Dans 5 ans, dans 5 ans, c'est peut-être un peu long, mais moi, je me vois encore dans la sécurité, c'est sûr, mais pas vraiment dans un entrepôt lugubre en train d'essayer de hacker le gouvernement, par exemple. Au début, je pensais à des entreprises intergouvernementales comme Interpol ou quelque chose comme ça. Ça m'intéressait bien. Mais il y a aussi les grandes entreprises privées qui s'occupent de la défense, la sécurité d'entreprises privées ou d'autres choses. En fait, les deux m'intéressent à part égales. Ouais.
Je refais une petite pause. Dans Ebios, on a vu qu'il y avait le périmètre à définir. Et là, vous êtes en train de l'élargir à un point. Dans 2 ans, on est encore en train de faire l'analyse de risque d'une ville de 5000 habitants. Je vous dis pas Lille, hein. Et Paris, on n'en parle même pas. Et est-ce que la sœur du frère de l'informaticien n'aurait pas eu accès à ces clés parce qu'ils sont montés dans la même voiture une fois et... Vous voyez, vous êtes en train de me faire des scénarios tellement alambiqués parce que les moyens financiers à mettre en place et l'énergie humaine que ça va demander... par rapport à, je dirais, à la vraisemblance que ça se produise, à la probabilité que ça se produise, bien, il y a un tel écart que c'est pas jouable, en fait. Plus de questions? Il n'y a plus de questions ou c'est parce qu'il est midi et demi? Bon, allez manger.
We're gonna blow it up.
Why would you blow?
While all that's going on,
You will use your all-safe security clearance to hack the Comet PLC, increase the pressure, causing a gas pipeline explosion, making Steel Mountain go kablooey along with Evil Corp's soul.
Workers? Anyone living around the plant? And they all die?
You're blowing up a gas pipeline.
The world is a dangerous place, Elliot. This is war. People will die, c'est la mort. And once we blow up the pipeline, the Dark Army is covering us on that.
Dark Army.
Last but not least, Steel Mountain. The Hacker's Dilemma.
I'm not killing anyone.
Que vous avez également travaillé avec des entreprises en faisant appel aux étudiants et que vous les mettez en position offensive d'attaque en boîte noire. Vous pouvez un petit peu nous raconter comment ça se passe, ce genre de choses?
Alors ça a commencé cette année. Donc on a deux entreprises cette année qui nous ont appelé pour que l'on travaille en sécurité offensive. Les deux sociétés vont recréer l'architecture informatique et nos étudiants vont attaquer cette architecture informatique, essayer de découvrir des failles pour que derrière, ils puissent, eux, combler avant de mettre vraiment en service.
François-Xavier a 21 ans. Il a suivi la formation en hacking éthique offensif. Depuis quelques semaines, il est en stage en alternance au sein de la société Promocil à Maubeuge. C'est une entreprise sociale pour l'habitat qui gère un important parc locatif de logements sociaux. Robert Croquefer, son tuteur de stage, le retrouve régulièrement dans l'entreprise pour superviser ses activités d'apprenti hacker.
François-Xavier a devant lui un environnement complet, on va dire, un environnement du SI, mais reproduit à l'identique. Donc on est dans le cas de figure où on peut faire un peu tous les tests qu'on veut sans aucun préjudice pour l'entreprise, vu qu'on est sur un clone de l'existant et qu'on peut s'amuser, il peut s'amuser et essayer un petit peu tout ce qu'on lui apprend chez nous.
J'ai les différents serveurs sous les yeux, je peux effectuer des tests dessus.
Il va falloir qu'on essaye de parler sans trop en dire, parce qu'on est carrément en face de nous, même si c'est un clone, c'est un véritable système d'information. Donc en fait, oui, effectivement, je vois beaucoup de machines virtuelles qui ont été reproduites et sur lesquelles, visiblement, il a des tests de sécurité à effectuer. Donc quel type de test tu as effectué sur ces machines virtuelles?
Pour le moment, je suis en train d'installer un antivirus. Les tests s'effectueront après, puisqu'il est en phase d'installation.
Est-ce que tu as une feuille de route un petit peu pour justement tes tests? Est-ce que tu as établi quelque chose, une feuille de route, une marche à suivre? Parce qu'on vous répète sans arrêt qu'il faut mettre sur le papier ce que vous voulez faire et établir votre cahier des charges. Donc,
il faut que je le retrouve.
Donc tu restes dans les grandes lignes générales et tu me lances un petit peu le type de test que tu veux effectuer suite à l'installation de l'antivirus. Donc, est-ce que c'est pas ça. Alors là, il est en train d'ouvrir un petit peu justement la rédaction de ses procédures.
Donc ça, c'est l'installation. Pour ce qui est de la procédure des tests, elle est pas là.
Dans les entreprises, ce qui est le plus piraté, c'est l'innovation ou les fichiers clients. Qu'est-ce qui est piraté?
Ce qui est le plus piraté dans l'entreprise, ce sont souvent tout ce qui est concept, tout ce qui est brevet. Ensuite, ce qui est piraté, ce sont les données clients. Et après, ça, c'est du piratage, entre guillemets, c'est du ransomware.
Et les pays qui sont en pointe pour se défendre dans le monde, c'est qui?
Pour l'instant, on va dire, c'est beaucoup les États-Unis, l'Europe, ayant été beaucoup de fois formés et faire des audits en Afrique, on s'aperçoit que eux pensent la sécurité en construisant les architectures, ainsi de suite. Et je pense que s'ils continuent dans la même lignée, d'ici quelques années, ils auront dépassé les pays d'Europe et les États-Unis, parce qu'ils reprennent eux, ils sécurisent dès le début. Il y a toujours eu de l'espionnage entre pays. Là, on retrouve la même chose, mais maintenant informatiquement. Il y a eu les virus, il y a eu les vers. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les APT, les attaques persistantes SWED, qui arrivent, qui sont des logiciels créés par des États, souvent. On s'est aperçu qu'ils étaient latents dans beaucoup de systèmes pour une potentielle cyberguerre. Donc ces APT étaient déposés dans tout ce qui était électricité, donc tout ce qui était énergie, tout ce qui était eau, tout ce qui pouvait, tout ce qui était télécom, ce qui pouvait faire tomber un pays à un certain moment. Et on sait que chaque pays a attaqué l'autre en mettant ça, ces APT un peu partout, en attendant peut-être une potentielle cyberguerre. Si on regarde un peu tout ce qui s'est passé, rien que sur les systèmes industriels, il y a eu des gazoducs de pirater, il y a eu des centrales nucléaires de pirater pour faire tomber un pays, pour faire. Et l'inconvénient, c'est que ça peut engendrer ce type de piratage des morts derrière, puisque c'est des centrales nucléaires, puisque ça peut être des chaînes de production avec des humains autour. Donc là, il n'y a plus que des vols de données maintenant, mais il y a du potentiel mort et des gros problèmes écologiques aussi derrière.
Et mais vous le comprenez, ce fantasme qui peut y avoir, ce fantasme ou alors cette peur réelle d'attaque contre une centrale nucléaire, contre un hôpital, ces entreprises que vous appelez OIV, opérateurs d'importance vitale. Est-ce que c'est quelque chose qui relève de l'irrationnel pour vous ?
Il y a toujours des risques, mais l'État a pris en main les choses, d'ailleurs à peu près dans les années 2008, à peu près au moment où on a créé la licence, l'ANSSI a vraiment pris les choses en main. La déclaration de ces fameux OIV, et en fait, ils sont très accompagnés, très surveillés. Le risque zéro n'existe pas, mais quand on fait quelque chose, il y a un moment, un risque acceptable à avoir.
L'ANSSI, c'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information.
Pour l'instant, l'ANSSI dit que le risque n'est pas encore acceptable, il souhaite progresser encore, et énormément de monde travaille à ça, ils recrutent énormément. Ils viennent d'ailleurs chercher des gens chez nous. Cela dit, pour l'instant, moi, je ne suis pas trop effrayé, parce que je dirais, les autres pays sont pas forcément dans un meilleur état, hein. Donc, si on déclenche une cyberguerre, effectivement, la France est peut-être pas la mieux armée, mais il y a plein d'autres pays qui le sont pas non plus, hein. Je pense que pour le moment, chacun se regarde en chien de faïence, en gros, et à part peut-être quelques éléments qui sont passés sur les centrales électriques des pays de l'Est, où ils ont réussi à en faire stopper quelques-unes par des attaques informatiques. Mais de là à faire exploser une centrale nucléaire, c'est quand même un risque qui est extrêmement mince. C'était à l'école des hackers avec Franck Ebel, Robert Croquefer, Jérôme Encar, Raphaël Rau et le lieutenant-colonel Pascal Le Plongeon. Et bien sûr, avec des étudiants de la licence CDI. Prise de son, Georges Thau. Mixage, Bernard Laniel. Documentation musicale, Michael Simon. Attaché de production, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Catherine Escrive, réalisé par Asia Khalid pour Sur les Docs. Day done. We all going back to the same one. It's constant motivation I stay with. Remarkable flavors. They don't bear the mark of the greatness. Whoa, now the kid is the buck tan. Your girl is in love now. You jump start fun and get shut down. Shut.
Les documentaires, vous pouvez le réécouter, le télécharger sur franceculture.fr à la page de Sur les Docs.